Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
François Pinet.
Il est 10h05, vous êtes de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi et le dimanche de 9h à midi, même pendant les vacances, ça ne s'arrête jamais. Et si vous avez raté la première heure, le podcast des GG est déjà disponible pour réécouter notamment notre débat sur le PSG et la Mbappé dépendance. Les GG de ce dimanche, Fred Weiss, Mario Bartoli et Manu Amoros. Dans 30 minutes, on recevra Armelle Courtois, vice-championne du monde de kitesurf, qui veut sensibiliser sur un sujet important, sur l'écologie et notamment sur la fonte des glaces. Et puis à 11h, les GG passent la seconde avec au programme les championnats d'Europe multisports à Munich. C'est en ce moment, il y a plusieurs compétitions en même temps, comme des mini-jeux olympiques. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On en parle avec nos GG dans une heure. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire au 32-16 pour réagir à ce qu'a dit une GG ce matin. C'est la séquence les GG et vous. On vous donne la parole à 11h45. Et Manu, on a dit une petite bêtise juste avant. Donc je fais quand même une précision sur le maillot rennais, puisque Philippe nous le dit sur l'appli RMC Direct Studio. C'est un maillot historique, en fait. C'était le premier maillot du Stade Rennais, un bleu et noir. C'est un maillot rétro qui a été ressorti pour l'occasion. C'était utilisé en 1901.
La Ligue aurait géré, on l'aurait su directement.
Voilà. Mais en tout cas, c'était un maillot utilisé en 1901. Ils ont sorti ces couleurs noires et bleues. Et c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir le Stade Rennais avec le maillot rouge et noir, bien évidemment. Mais il fallait quand même préciser. Merci aux auditeurs d'être à l'affût, ce qui n'est pas toujours le cas de nos GG. Mais d'abord, dans les GG, l'heure.
Et après, tu te plains, on s'en régresse. Ouais,
c'est toi qui dois avoir la responsabilité de ça, François.
Non, mais non, mais oh là là. Mais je savais que j'avais affaire à trois égaux énormes.
Tu dédouanes facilement quand même.
Ouais, ouais, t'as vu comme il jette la responsabilité sur les autres.
La responsabilité, tout ça. Alors que le journaliste, c'est toi.
Ah oui, donc tout est de ma faute, c'est vrai.
Voilà,
évidemment. C'est toujours la faute des journalistes, c'est vrai, j'avais oublié. Dans les GG, c'est l'heure de la punchline. Qui est signé cette semaine, Carlo Ancelotti, qui a parlé évidemment de son joueur Karim Benzema.
RMC, la punchline GG.
C'est un joueur très important, un leader de l'équipe. Et si on est arrivé jusque-là, c'est grâce à lui. Il a marqué beaucoup de buts. Personne ne doute qu'il sera Ballon d'Or. Je pense vraiment que personne n'en doute.
Carlo Ancelotti, c'était cette semaine après un nouveau but de Karim Benzema lors de la Super Coupe d'Europe qui permet à Benzema de dépasser Raoul au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Le Real qui entre en piste ce soir en Liga face à Almeria à 22h avec donc un Karim Benzema qui sera peut-être sur la lancée de sa saison dernière avec peut-être au bout notamment un ballon d'or qui devrait être décerné à Karim Benzema en fin d'année. D'où cette question, les GG. Musique qui fout les jetons. Qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid ? Benzema ou Zidane ? Marion Bartoli.
Zizou.
Zizou. Fred Weiss.
Benzema.
Benzema. Manu Amoros.
Zidane.
Zidane. Deux Zidane, un Benzema pour l'instant, il y aura débat. Et on accueille un arbitre qui forcément devait être là pour ce sujet. Fred Hermel est avec nous. Salut Fred.
Hola chicos.
Ah, t'es sorti de vacances juste pour faire ce débat.
Qu'est-ce bah, j'étais chez les ancêtres de Manu Amoros, du côté de Valence, Alicante.
C'est ah, bien là, hein. Alicante, ouais. Alicante, c'est bah, voilà, la famille. Bah,
j'étais dans la région d'Alicante.
Ah, bah super. Il devait faire chaud, non? Un peu.
Ouais, exactement ce que j'avais dit.
Ouais, non, mais attends, mais il y a le soir, ouais, mais bon, Alicante, il y a un petit peu d'air et tout ça. Donc, ouais. Non, c'était très bien.
De bonnes vacances pour Fred Hermel. Bon, t'es reparti là, ça y est, hop, à fond, tu seras dans les GG l'année prochaine. Et là, tu participes au GG du sport. Donc, ça, on est ravis de t'accueillir pour parler évidemment d'un sujet que tu maîtrises parfaitement, le Real Madrid. Sans répondre à cette question qu'on vient de poser, puisqu'on va débattre avec toi aussi, est-ce que c'est Benzema ou Zidane qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid? D'abord, Benzema, on est d'accord, c'est la plus belle saison qu'il vient de vivre avec le Real Madrid. Il n'y a pas photo.
Ah non, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur joueur d'Espagne, voire du monde cette saison. Enfin, l'Espagne, on a aucun doute par rapport à ça. Après, pour essayer d'apporter quelques éléments pour la réflexion, parce que j'ai mon petit avis, mais je le donnerai tout à l'heure. Il faut prendre un peu de distance par rapport à ça. Benzema n'est une star incontournable en Espagne que depuis 2-3 ans. C'est ça aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut voir que pendant de nombreuses années, Benzema était considéré comme un joueur secondaire. Il était jamais légitime aux yeux des supporters, même de la plupart des supporters du Real Madrid, qui considéraient que, mais tous les ans, il fallait le vendre. Et moi, je l'ai vécu in situ, c'est-à-dire que j'étais à la tribune de presse à Bernabéu, les gens sortaient, ils me disaient ouais, faut vends-nous ton Benzema, on en a marre, etc. En plus, comme j'étais l'un des rares à le défendre dans la presse espagnole, et donc c'est vrai que cette folie autour de Benzema, elle est finalement très récente, alors que Zidane, lui, ça a démarré au bout de 6 mois. Il y a eu 6 mois pour s'intégrer, et puis après, ça m'a été merveilleux. Et puis surtout, la première saison de Zidane comme joueur, il met le but hallucinant à Glasgow.
Et
exactement, Marion.
Reprise de volée, pied gauche.
Et exactement. Et lui qui est droitier. Ça a marqué l'esprit. Donc, il faut prendre un peu de distance.
Donc, tu voulais pas donner ton avis, mais tu l'as fait.
Non, mais j'explique. Et en plus, il y a le deuxième.
Ça va, Fred, on sait que c'était pour Zidane, c'est bon.
Le deuxième effet qui se coule, qui est Zidane entraîneur. Parce que, je ne sais pas si Benzema sera entraîneur ou pas. Moi, je vais faire la porte à rien parce que Zidane entraîneur, je peux vous dire que en novembre 2005, il me dit, il se fout de moi quand je lui dis qu'un jour il pourrait être entraîneur. Ouais. Zidane. Donc Benzema entraîneur, personne n'y voit avant maintenant. Mais quand on voit le leader qu'il est, et ça a été précisé par Carlo Ancelotti, le leader technique et même le leader dans le vestiaire, et aujourd'hui il est numéro un dans la hiérarchie des capitaines, hein, puisque Marcelo est parti. Et ben Benzema, qui sait, sera peut-être un jour entraîneur et entraîneur du Real Madrid. Mais c'est vrai qu'il y a. Et il faut mettre la dimension entraîneur de Zidane, qui a quand même fait remporter au Real 3 Ligue des Champions de suite.
On a l'impression quand même que tu penches du côté de Zizou pour cette question qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid. Alors, on va laisser parler Marion, justement, puisque toi aussi tu as dit Zizou. Sans hésitation.
Non, mais totalement. Mais je suis complètement d'accord avec Fred. Et il faut quand même pas oublier non plus que c'est Zizou qui relance Karim, qui était complètement à la cave du Real. Comme le dit exactement Frédéric, on voulait le vendre. Chaque année, on disait mais quand est-ce qu'on le vend ? Et c'est lui qui a dit non, Karim, je crois en lui. On va le relancer. Il a totalement relancé. Et Karim en fait a éclos en prenant une autre dimension quand Cristiano est parti. Cristiano restera le plus grand joueur du Real de Madrid par tout ce qu'il a fait. De toute façon, c'est le plus grand marqueur, plus grand buteur. Voilà.
Il est pas le plus
aimé.
C'est
lui qui domine.
Non, mais
c'est lui qui
il était dans l'ombre de Ronaldo,
de
Karim Benzema.
Exactement, Karim.
Donc, il était aussi non, je pas le plus aimé, je parle de Ronaldo. C'est-à-dire que c'est quoi, comme quoi les statistiques, c'est Ronaldo est et restera sûrement tout le temps le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, parce que c'est un record tellement dingue à battre. Mais dans le cœur des gens, finalement, Ronaldo va pas rester énormément.
Alors, mais Zizou avait une place dans le cœur des gens exceptionnelle. Moi, je me rappellerai toujours de cette phrase d'Alex Ferguson, pardon. Donnez-moi 10 bouts de bois et Zinedine Zidane, je gagnerai la Ligue des Champions. Et avec ça, t'as tout résumé. C'est-à-dire que je pense vraiment pas qu'en France, on ait un joueur qui sera un jour au-dessus de Zinedine Zidane par tout ce qu'il fait, par la technique qu'il a. Ils occupent pas encore le même poste, hein. Zidane était vraiment un meneur de jeu. Karim est un buteur. Donc, que ça soit différent, ça aussi, c'est logique.
C'est ça, oui.
Mais pour moi, effectivement, comme l'a dit notamment Frédéric, je suis en plein accord avec lui. Il aura tellement marqué le club tout de suite par son entrée et puis ses 3 Ligues des Champions d'affilée. Il en gagne une comme assistant Ancelotti, d'ailleurs 3 consécutifs. Enfin,
une comme joueur, une comme adjoint, trois comme entraîneur.
Fred Hermel, Mario Bartoli et Manu, on va donner quand même la parole à la défense de Karim Benzema, celui qui a osé dire Benzema a le plus marqué l'histoire du Real Madrid. C'est un autre Fred Weiss. Benzema, donc pour toi, au-dessus de Zidane.
Au-dessus de Zidane, pas comme joueur, mais par rapport au Real.
Par rapport au Real, bien sûr.
Pourquoi ? Parce que déjà, quand je pense à Zidane, je pense à Juve, plutôt. Déjà.
Ouais.
Donc déjà, c'est difficile pour moi de l'associer uniquement au Real Madrid. Le premier truc qui me vient, c'est la Juve. Déjà. Ensuite, quand je pense à Benzema, c'est 5 Ligues des Champions.
Ouais.
D'accord ? Il est lié depuis 2009 dans le meilleur club du monde, donc quand même 13 ans de suite dans le meilleur club du monde. Il était lieutenant de Ronaldo, on en a parlé tout à l'heure. Tout le monde lui a promis l'enfer au départ de Ronaldo. Sauf qu'il arrive, il est là, il gagne le titre, il va être ballon d'or certainement, en tous les cas il est en très bonne position. Ben, je suis désolé, mais il a 30 titres avec le Real Madrid.
C'est un truc de fou.
C'est un truc de malade historiquement. Alors Zidane, encore une fois, moi c'est, je suis un énorme fan, évidemment, en plus c'est ma génération, etc. Sauf que quand tu regardes les statistiques qu'il a, il arrive avec les Galacticos, il gagne une Ligue des Champions, quoi.
Exactement, et si tu fais les statistiques
il
du
a gagné
palmarès,
avant les Galactiques.
Oui, mais il a gagné une seule fois
après la victoire de la Ligue des Champions.
Oui, ben, je veux dire, il a eu une Ligue des Champions.
Fred a raison. Fred a raison. La période galactique a pas été finalement un énorme succès. C'était un énorme impact économique pour le Real. Ça a relancé totalement le club.
C'était magnifique pour nous. C'était un peu les Avengers du foot qui seraient réussis. C'était génial. Sauf que finalement, en termes de résultats, il n'y a pas tant que ça. Alors, parce que... il y a le coach après. Ouais. Après, vous avez parlé du coach. Oui, évidemment, en tant que coach.
Alors, on ne peut pas comparer, parce que Benzema, évidemment.
Déjà, d'une part, et en plus, ce qu'il fait, c'est juste monstrueux. Alors, pour moi, Benzema est un tout petit peu au-dessus.
Si on reste sur le terrain, ouais.
Si on reste sur le terrain, et même sur l'histoire en général, parce que, ben voilà, parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Et en plus, j'ai l'impression que parfois, on a une image un peu tronquée de Benzema par rapport à son historique en équipe de France, etc. On a l'impression que Zidane, il a un peu un totem d'immunité. Et quoi qu'il fasse, c'est lui le meilleur. Moi, je suis un grand fan de Zidane, mais je trouve que Benzema, ce qu'il est en train de faire au Real Madrid, c'est du jamais vu.
Alors, juste, je vais donner la parole à Manu, mais juste pour préciser quelque chose sur les titres. C'est vrai qu'on a fait le calcul. En gros, Benzema sur le terrain, bon, il est resté beaucoup plus longtemps au club que Zidane, hein, mais effectivement, il a gagné 21 titres. C'est plus que si on cumule les titres de Zidane, entraîneur et joueur au Real Madrid. La parole à Manu.
Ben non, tout a été bien résumé.
Mais toi, tu voyais Zidane quand même.
Ben, je voyais Zidane parce que je crois que Zidane a amené une certaine fraîcheur à ce club du Real qui en avait bien besoin. Et même s'il a eu un petit temps d'adaptation, et c'est tout à fait normal quand on va dans un pays étranger qu'on connaît pas trop, même si le club était quand même connu dans le monde entier, on a plus de facilité. Moi, ce qui me gêne, c'est que Benzema a eu malheureusement Ronaldo devant lui. Et l'a empêché peut-être d'évoluer davantage comme il a évolué quand Ronaldo est parti. Donc c'est ça qui me gêne. Et il a pris une dimension après que Ronaldo soit parti, parce que il a su prendre ses responsabilités tout au long de cette carrière après Ronaldo. Et qu'il soit meilleur joueur l'année dernière du football espagnol, c'est tout à fait normal et logique, et il mériterait, et il va avoir sûrement le Ballon d'Or.
Oui, alors après, c'est vrai qu'on ne voyait pas non plus un Benzema capitaine, par exemple, hein, Fred, je me trompe. Et il a pris vraiment les commandes et ce rôle à cœur au Real Madrid. Donc, il va laisser quand même cette trace-là au Real Madrid. Et la dernière Ligue des Champions, bah, s'il n'y a pas Benzema, il n'y a pas victoire au bout.
Ouais, donc, mais bon, il a été capitaine parce qu'en important. Il est parti.
Oui, non, mais...
c'est question d'ancienneté. Attends, non, mais c'est question d'ancienneté. Mais oui, c'est ça qui est génial. Ah non, mais parce qu'avec toute l'adversité qu'a connu Benzema au Real Madrid, il était attaqué par tout le monde. Je vous rappelle que Mourinho l'appelle le chat quand même.
Oui. Voilà, mais enfin, je veux dire, il a été
humilié plein de fois par la presse, par des grandes voix du sport espagnol, par Mourinho, etc. Et il a tenu bon, quoi. C'est-à-dire que la capacité de résistance de Benzema tout au long de ses années est absolument admirable. C'est-à-dire qu'il il entre dans la légende. Il est déjà, bien entendu, dans la légende du Real Madrid, mais il ne doit qu'à lui-même. Et tu parlais de Ronaldo. Il faut expliquer une chose aussi. Sans Ronaldo à ses côtés, Benzema ne serait pas le joueur qu'il est aujourd'hui. Et lui-même le reconnaît. Benzema a grandi grâce à Ronaldo. Ronaldo l'a tiré vers le haut. Vraiment, enfin, c'est au niveau du travail quotidien, etc. Je veux dire, moi, je me souviens que Karim m'avait raconté, il était là depuis, on est à peu près en octobre 2009, donc il est là depuis quelques mois, et Karim me raconte un jour que Ronaldo, au bout de 2 mois, était venu le voir en disant, Karim, t'es pas en France ici t'es au Real, quoi, t'es pas à Lyon. Ici, faut pas te contenter de ce qu'on te demande. Tu fais très bien ce qu'on te demande, mais il faut en faire plus. Il faut arriver 1 heure avant, repartir 1 heure après, faire de la muscu avant, faire de la muscu après. Et maintenant, vous voyez sur les images d'Instagram, etc., Benzema en vacances, c'est le régime qu'il a de travail de l'année, hein. Il a chez lui une salle de muscu absolument hallucinante, etc. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a appris à devenir ce qu'il est aussi grâce à l'exigence qu'il a côtoyé avec Ronaldo.
Ouais, mais il s'est servi aussi de toutes les critiques des journalistes et de ses entraîneurs pour vraiment se bonifier et devenir le joueur qu'il est aujourd'hui.
Donc il est marquant, le travail
qu'il a fait aussi, il est important. Et Ronaldo, comme tu dis, l'a dû l'aider énormément. Surtout dans la mentalité, dans penser dans le positif. Parce que je pense que quand il est arrivé peut-être au Real, alors il était peut-être remplaçant, il jouait pas beaucoup parce qu'il y avait Ronaldo et chaque fois avec l'entente Ronaldo, c'était pas terrible, mais il a su se servir de tout ça pour pouvoir progresser au fur et à mesure.
Disons que c'est difficile.
Oui, mais il faut quand même pas oublier. Enfin, pour moi, tu vois, il y a effectivement Karim qui a 5 Ligues des Champions, il y en a 4 où Ronaldo joue. Et le reste de l'équipe tournait, enfin, c'était quasiment les mêmes. Il y a beaucoup de cadres qui ont aussi 4 Ligues des Champions comme Karim et qui maintenant en ont 5 parce qu'ils en ont gagné quasiment ensemble. L'équipe est la même depuis longtemps. Comparer les stats de ces deux joueurs alors qu'ils n'ont pas fait du tout le même nombre d'années au Real Madrid, je trouve ça compliqué, voire pas logique. Tu vois, pour moi.
Non, mais on peut comparer l'impact d'un joueur.
Oui, mais l'impact,
joueur,
tu peux avoir le même impact quand tu restes 13 ans dans une équipe ou par rapport à ce que vous avez qu'à passer Zizou.
les statistiques en fait.
Non, c'est pas les statistiques, c'est une image.
Mais non, mais tu peux pas.
Ouais, mais tu peux pas mettre un avant-centre avec un milieu de terrain, c'est pas possible.
Exactement. Et Ancelotti l'a dit lui-même, Zidane est le plus grand joueur que j'ai entraîné, le plus beau à regarder, c'est lui-même qui l'a dit.
D'accord.
Mais pour moi, c'est juste, tu peux pas comparer quelqu'un qui est resté 13 ans dans une équipe et en plus c'est Zizou qui l'a relancé.
Bah si, parce que la longévité fait partie de la légende aussi. Tu vois ce que je veux dire?
La longévité, non, la longévité.
Oui, la longévité, c'est ce que j'ai dit. Le retour, de Mario Martelli.
Non, mais faut pas oublier.
C'est un beau passing,
là. Il y a un élément que vous oubliez dans l'histoire, mais je pense que Fred, lui, il a pas oublié. Fred Hermel, Karim. Quand Zizou arrive en tant qu'adjoint d'Angelotti, c'est lui qui le relance totalement. Il avait perdu confiance au Mourinho, il avait perdu confiance au Pellegrini, et c'est Zizou qui dit non, c'est un immense joueur, Karim, laissez-nous du temps, il va apporter énormément au Real de Madrid. Donc, non seulement il a eu cette vision, effectivement. Alors, Karim, bien sûr, s'est accroché. Karim a été capable de faire le dos rond, de travailler plus, de s'impliquer plus. On voit aujourd'hui qu'il a une gêne de vie irréprochable, comme tu dis, continuer à s'entraîner en vacances, etc. Il a vraiment le culte de la performance poussé à l'extrême. Et ça, c'est admirable. Et j'ai rien à dire là-dessus. Et c'est un immense joueur. Mais pour moi, Zidane, c'est le maestro. C'est la grâce, c'est cette technique. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose. Je sais pas. J'ai du mal à l'expliquer.
Est-ce qu'on est en train de comparer la qualité des joueurs ou l'impact qu'ils ont sur le club où ils sont? Moi, je pense qu'un joueur qui reste 13 ans dans un club, il a un impact conséquent aussi par ça, par rapport à ses résultats sportifs, mais aussi au fait que c'est un des plus grands clubs du monde, on va pas se mentir, le Real Madrid, rester 13 ans dans ce club, c'est aussi un symbole fort et marquant pour moi.
Je vais me permettre, vraiment, tu t'es permis de corriger François. Real de Madrid, pas toi Marion. Pas Real de Madrid.
Parce que
quelqu'un de ton niveau, voilà, ça fait clash, quoi, c'est pas possible. Non, mais ça c'est la plaisanterie. Mais tu disais un truc très intéressant et qui montre ta grande connaissance du Real Madrid. C'est vrai que il a 52 ans quand même, le mec. 32 ans de radio, 23e saison RMC. Je veux dire, la durée, moi aussi je suis dans la durée. Voilà l'impact.
La longévité, quelle longévité.
Incroyable longévité. Ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on oublie souvent le rôle, et Marion a raison de le préciser, de Zidane adjoint d'Ancelotti. Ancelotti lui confie les attaquants et confie notamment Benzema pour lui redonner confiance. Et un jour, je me souviens, Benzema avait marqué un super but, et après je le vois et tout, super but et tout, il me dit, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Zizou. Il me dit pourquoi? Il m'avait dit, il avait expliqué que cette équipe était faible au premier poteau, etc. Bah, Zizou est bien. Il lui avait dit, il faudra toujours que tu plonges au premier poteau, première intention, etc. Et son but a été marqué exactement comme lui avait demandé Zidane, alors qu'il était simplement adjoint. Donc c'est vrai que le rôle de Zidane en tant qu'adjoint d'Ancelotti a été essentiel, parce qu'Ancelotti voulait relancer Benzema, et il s'est servi de Zidane et de la confiance qu'il y avait entre Benzema et Zidane pour pouvoir le relancer. Après, au niveau de l'impact, je trouve que ce débat est vraiment très intéressant. Merci. Je pense qu'au-delà de la longévité, ouais, je copie mon idole François Pinet.
Mais j'ai jamais dit ça. Bon,
C'est une question d'image. L'impact, c'est une question d'image. Et l'image, on n'a pas besoin de faire 25 saisons pour le voir. Il y a 2-3 images de Zidane qui vont rester. 7 volées de Glasgow et aussi des contrôles. Parce que vous savez, le public du Bernabeu est un public, les supporters du RAL, d'esthète. C'est-à-dire qu'ils préfèrent même un joli contrôle à un but. Et Zidane, voir Zidane contrôler un ballon, c'est-à-dire que Florentino Pérez disait, quand il était joueur, Florentino Pérez, président du RAL, qui a tout fait pour que Zidane vienne revêtir le maillot blanc, disait, les gens payent leur place à Bernabéu pour voir comment Zidane contrôle la balle. Et ça, dans l'histoire du Real, ça compte autant que des buts, voire plus.
Oui, non, mais c'est une image. C'est vrai que c'est une image qui reste. Bien sûr, la volée de Glasgow, c'est une image que tout le monde a en tête.
C'est l'élégance.
Maintenant, c'est vrai que c'est difficile pour Benzema parce que c'est le présent, Benzema. Et peut-être que dans quelques années, on fera ce débat peut-être qu'il y aura encore un peu plus de débat parce qu'on verra la trace qu'a laissé Karim Benzema dans le Real Madrid une fois qu'il aura pris sa retraite.
Il est encore joueur. Et
il y a quelques joueurs, quelques images qui restent, comme notamment son triplé contre le PSG. qui est quand même assez, assez incroyable. Que tu, oui, que tu as dû apprécier, Marion, bien sûr.
Parce que Marion aussi, elle avait bien aimé ce match contre le PSG.
Ah,
elle a adoré.
Manu aussi, je pense. Oui.
On est vraiment avec des gens bien ce matin. Hein.
Bon, en tout cas, Fred, on va te remercier d'être sorti de tes vacances et de ta tanière pour venir nous voir.
Ça y est, je suis en forme.
Tu vois, on t'a relancé, nous aussi.
Et bonne reprise à toi.
Marion Martoli relance la carrière de Fred Armel. Magnifique.
Incroyable. Merci beaucoup, Fred, en tout cas. À très, très bientôt. Le débat, évidemment, continue dans les GG. Et dans un instant, on va accueillir une sportive engagée, Armel Courtois, vice-championne du monde de kitesurf, qui veut sensibiliser les sportifs et le grand public à l'écologie. Elle nous raconte son combat dans les GG dans un tout petit instant. Restez avec nous. À tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
François Pinet.
Il est 10h30. Tout pile, vraiment tout pile. Les GG du sport, c'est jusqu'à midi, c'est tous les week-ends en direct sur RMC avec nos GG du jour, Marion Bartoli, Fred Weiss et Manu Amoros. Dans 15 minutes, on aura un nouveau zapping, le on s'en fout pas, avec j'ai de l'humiliation de Manchester United à vous proposer, ou encore du Nick Kyrgios qui a fait des siennes en conférence de presse. On verra si ça vous intéresse ou pas, les GG. Juste avant de retrouver l'invité, je crois que Marion Bartoli avait quelque chose à dire. C'est ce qu'on m'a dit en régie, Marion.
Oui. Petite mise au point. Donc j'ai entendu François nous dire oui, vous avez de l'ego, vous êtes pas bien.
J'ai dit ça, moi.
Et je l'ai pas dit. Réécoutez le podcast, je l'ai pas dit. Bah, on va réécouter.
Quoi ?
Allez, envoyez le son.
Bah si, parce que la longévité fait partie de la légende aussi. Oh là. Ah ouais.
François, tu t'es fait attraper.
Ah ouais, là ouais. Ouais, mais je remercie pas Geoffrey Charpie qui me dit non, t'inquiète pas.
Je suis sûr que c'est lui qui a donné l'info à Marion. Fais écouter.
Ah là là, je me suis fait avoir. Il m'a dit Marion a quelque chose à dire, vas-y, donne-lui la parole. D'accord, ok. Je retiens Marion. Franchement, je retiens. Je retiens. Et tu sais, la vengeance est un plat qui se mange très froid. Allez, on va passer à l'invité des GG, sans rancune Marion. L'invité qui a 36 ans, elle est vice-championne du monde de kitespeed, qui est une discipline du kitesurf. Et aujourd'hui, elle veut alerter sur les dangers du réchauffement climatique. Armel Courtois est en direct avec nous à 10h31. Bonjour Armel.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, on va parler de ton projet Riding to Explore qui va donner lieu à un film prochainement. Mais d'abord, je voudrais que tu nous racontes comment tu t'es retrouvé, puisque ça part de là, ce projet, à faire du kitesurf dans des conditions extrêmes. Tu es allé, tu as décidé d'aller faire ça, ta passion sur des lacs en altitude, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et oui, effectivement, c'est un petit peu incongru parce que le kitesurf, on le trouve plutôt en bord de mer ou sur des lagons, c'est plutôt l'image habituelle. Mais avec mon compagnon Martin Thomas, avec qui on partage la passion du kite, donc lui plutôt en loisir puisqu'il fait du canoë en compétition en équipe de France, on est aussi amoureux de la montagne, donc on partageait un petit peu notre temps entre la mer et la montagne. Et à un moment, un petit grain de folie nous a donné envie de d'hisser les voiles sur ces lacs qu'on rencontrait lors de nos excursions en montagne. Donc on a fait des premiers tests et puis après on a eu envie, un peu forcément notre côté sportif je pense s'est mêlé à ça et nous a donné l'envie, ça a commencé comme ça, de se lancer un défi et d'aller plus haut en montagne pour aller sur les plus hauts lacs au début des Alpes et des Pyrénées. Et puis après, ça nous a amené dans les Andes et l'Himalaya.
Et l'Himalaya. Alors déjà, c'est du sport, rien que le fait de trouver ce lac. J'imagine que ça doit déjà être du sport. Des conditions très, très compliquées. En plus, après, il faut faire du kitesurf sur ces lacs. C'est pas toujours évident.
Ah oui, non, par contre, on est loin d'une session plaisir. C'est pour ça qu'au début, c'était un vrai défi. C'était vraiment de repousser les frontières de ce sport parce que, effectivement, déjà, il faut acheminer le matériel jusqu'à des lacs d'altitude. Donc, on portait jusqu'à 25 kilos sur le dos pour aller jusqu'à ces lacs qui étaient parfois peu approprié, on va dire, à la pratique du kite, avec notamment des aires de décollage, bah forcément beaucoup plus minérales, avec beaucoup de cailloux qui représentent des dangers imminents lors de la mise à l'eau. Et puis ensuite, ce qu'on sait tous, un peu d'instinct, c'est que le vent en montagne est très perturbé, il est régi énormément par des phénomènes locaux. peu prévisible. Et en plus, quand il est là, forcément, ça tamponne sur tous les reliefs. Donc, ça peut tourner à 180 degrés. C'est assez scabreux.
Oui. Donc, faut être évidemment courageux. Et tu l'as été courageuse, Armelle, pour faire tout ça. Et finalement, en découvrant tout ça, c'est là que tu as pu t'apercevoir que les glaciers étaient en train d'être cul, qu'il y avait vraiment une des conséquences du réchauffement climatique. Parce que ces lacs glaciaires, continuent de, comment dire, il y en a de plus en plus, hein. Je crois qu'il y a 15 000 lacs qui sont apparus depuis 30 ans. Et c'est en discutant avec les populations, c'est en voyant tout ça que tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose à dire autour de tout ça ?
Exactement. Donc nous, c'est parti du défi sportif et finalement, ça en est arrivé là pour toutes les raisons évoquées. Déjà, par nos recherches, puisque on a commencé à chercher des lacs pour aller faire ce défi. Et en fait, arrivé sur place, on se trouvait confronté parfois à des lacs qui n'étaient même pas répertoriés sur la carte IGN, parfois les prises satellites, puisqu'elles sont pas mises à jour en instantané. Et donc là, évidemment, ça nous a posé question. Et en fait, l'explication, elle est simple, c'est que dû au réchauffement climatique, l'apparition de ces lacs glaciaires se démultiplie, puisque bon, tous les lacs en montagne sont d'origine glaciaire, donc plus ou moins récentes, hein, même un lac comme Annecy. Mais là, le problème, c'est vraiment le côté trépidant de ces créations qui, effectivement, le chiffre déjà interpelle de ces nouveaux lacs qui apparaissent récemment. Et c'est pas fini. Et donc nous, on a même qualité sur des lacs que les anciens, par exemple, dans un village ne connaissaient pas parce qu'ils ne montaient plus vers les 3000 mètres. On a discuté effectivement avec les gardiens de refuge qui nous disaient que tous les ans, à chaque saison, quand ils montaient, le paysage était transformé, les lacs s'agrandissaient, certains bouts de glaciers, certains glaciers, par exemple dans les Pyrénées, il y a encore un glacier qui a disparu cet été, disparaissent. Et nous, ça nous a vraiment interpellés. On a contacté une fondation qui a eu vraiment la bienveillance de nous mettre directement en liaison avec un des spécialistes de ce sujet, donc Jean-Baptiste Bosson, qui nous a beaucoup, beaucoup informés sur ce thème. Et en fait, tout simplement, toute cette démarche, toutes ces découvertes qu'on a fait grâce au sport, on a voulu les partager avec le plus grand nombre. On s'est dit qu'on pouvait pas garder ça pour nous.
Et on va continuer à en parler. Armelle Courtois, vice-championne du monde de kitespeed, une discipline du kitesurf, qui est en direct avec nous dans les GG pour alerter justement sur ce réchauffement climatique. Marion Bartoli est avec nous pour poser une question.
Oui. Bonjour Armelle. Effectivement, tout d'abord félicitations pour tout ce que vous faites. Alors j'ai pu lire que lorsque vous aviez vos expéditions, vos données récoltées, en fait, vous les communiquiez à des glaciologues pour permettre justement de comprendre un petit peu l'évolution et pourquoi il y avait ces fontes aussi rapides. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez d'expédition pour préparer la prochaine ou pour préparer de nouveaux projets, quels sont vos buts les plus importants? Est-ce que vous essayez de faire en premier? C'est vraiment de continuer à alerter les gouvernements, la population pour qu'il y ait une action climatique qui soit faite. C'est plus sur de défis sportifs. Quels sont vos prochains buts en fait?
Alors nous, la priorité vraiment numéro un maintenant, c'est la sensibilisation et interpeller l'opinion publique pour aussi interpeller les décideurs politiques, mais avant tout le public, puisque l'action collective, nous on pense que c'est la plus efficace. Et effectivement, au départ, c'est parti d'un défi sportif, mais maintenant, on est vraiment dans une démarche de sensibilisation. Les deux jours qu'on a mis en place là dans les Alpes, justement, l'intention des sportifs de haut niveau avant-hier et c'en est un penchant, mais on a mis plein de choses en place avec les glaciologues pour leur donner de la voix aussi, de la visibilité. C'est vraiment la sensibilisation qui est passée au cœur de notre action. Ouais. Et d'être allé à droite, à gauche. Le but maintenant, c'est d'en tirer le meilleur.
Alors,
vous êtes arrivé à parler à des décideurs politiques, vous êtes arrivé à avoir un écho, vous avez pu avoir quelque chose de tangible ou pour l'instant ça reste au stade embryonnaire?
pour l'instant, au niveau politique, on n'a pas encore la prétention d'être arrivé à un écho. Après, on travaille avec Jean-Baptiste qui travaille en liaison avec le ministère de la Transition écologique, qui est à l'origine vraiment de travaux concrets avec le ministère. Et après, toutes les actions qu'on mène commencent petit à petit à remonter, et même la diffusion sur les canaux de médias, comme vous aujourd'hui, vous nous donnez la parole, comme les médias télévisuels, petit à petit, on sent que ça monte.
Sûr,
et ce sera un travail de fourmi, mais on est persuadé qu'il arrivera au bout.
Alors Armel, tu parlais de ça, donc je précise qu'effectivement, tu as souhaité inviter des sportifs de haut niveau cette semaine au glacier de la Mer de Glace en Haute-Savoie pour justement les sensibiliser à ces problématiques écologiques. Et il y avait notamment au programme des échanges avec des glaciologues. Armel Courtois est avec nous en direct dans les GG du sport, donc pour alerter sur le problème de la fonte des glaces, notamment qu'un problème dû au réchauffement climatique. Manu Amoros est avec nous dans les GG. Manu.
Oui, bonjour Armel.
Bonjour.
Moi, je voulais savoir, parce que là, c'est un sujet quand même qui est très compliqué, très difficile dans le monde où on vit aujourd'hui, et on sait que les pays, les grands pays de ce monde luttent contre ça, mais ne luttent pas assez, et des fois, ils oublient de faire des choses pour le climat. Est-ce que tu crois que, je te donne quelques pays, la Chine, la Russie, les pays du Moyen-Orient, vont pouvoir changer leur mode de fonctionnement? Moi, j'y crois pas trop.
Alors, par exemple, moi, je crois que je vais en donner un exemple, c'est que là, par exemple, on isole la Chine. On dit, est-ce que la Chine va pouvoir? Mais aujourd'hui, on est dans un système, c'est pas la Chine toute seule. La Chine, elle est ce qu'est la Chine, notamment son empire industriel et commercial, parce qu'on lui donne ce rôle-là. Donc c'est là où, justement, moi, je distingue pas la Chine de nous. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qu'on achète, énormément de choses qu'on achète, qu'on produit, passe par la Chine. Mmh. Donc si nous, on change, la Chine va être obligée de changer. Elle changera pas forcément d'elle-même, parce que déjà, elle est dans un modèle, on est tous dans un modèle, il faut pas se voiler la face, qui doit être vertueux, qui doit être commercial, etc. Mais si nous, on change pas... Nous, l'Europe, nous, les États-Unis, que sais-je, nos façons de faire, ça a forcément impacté la Chine. Donc, à un moment, elle va être aussi obligée de changer. Donc, moi, je pense que le monde aujourd'hui, c'est un roulement les uns avec les autres, et que, évidemment, si on attend que chacun change dans son coin, en se disant que parce que l'autre ne change pas, on ne change pas, ça c'est sûr que ça n'arrivera pas. Par contre, si on a des actions collectives avec des phénomènes industriels et commerciaux qui changent, et on voit que ça commence qu'il commence à y avoir une dynamique, et bien c'est celle-ci qu'il faut encourager, et à un moment, la Chine, le Moyen-Orient, ils seront obligés de changer.
Armel Courtois, Frédéric Veil, c'est également dans les GG ce matin.
Bonjour Armel. Moi j'ai une question. Je sais qu'il y a plein d'autres choses, mais j'ai vu par rapport au fait que tu regroupes des sportifs pour comprendre déjà et pour passer le message après. C'est quoi le message qu'ils peuvent donner en sortant de cette expédition, j'allais dire, avec ces rendez-vous avec les glaciologues, etc. Quel est le message que t'aimerais qu'ils passent, et qu'est-ce qu'on pourrait passer nous comme message aussi par rapport à ça?
Alors, nous, l'essentiel de l'objectif, c'est de concerner tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, des fois aussi, nous, on a l'impression qu'on est un peu dans une morosité écologique, qu'on peut se sentir un petit peu découragé. Donc, il y a deux pans. Voilà, ce côté un petit peu découragement, et dire que notre action individuelle a peu d'influence. On le voit, une des questions, c'est est-ce que... Oui, mais si la Chine ne fait rien, c'est pas grave. L'action du colibri, on connaît l'histoire, le colibri qui essayait tout seul d'éteindre la forêt, et puis finalement, l'action collective est toujours plus forte. Donc déjà, c'est d'encourager cette action collective, de redonner un petit peu d'entrain, on va dire. Et l'autre chose, c'est que l'individu dans la société peut vite avoir l'impression qu'il est tout seul, justement, ça se recoupe, à le faire. Parce que les industriels ne font pas, parce que tout le monde n'est pas concerné, et de montrer aussi que des leaders d'opinion, des leaders sur les terrains peuvent eux aussi faire leur action.
Ouais, et notamment les sportifs, effectivement, les sportifs qui doivent prendre leur part dans tout ça.
Et juste une action simple que tu pourrais nous donner.
Bah déjà, c'est dans les actions simples. Alors, il y a en tant que sportif ou pas, mais déjà de s'engager dans des actions locales, parce que aussi, au lieu de s'attaquer des fois, on se sent un peu démuni face à, on va se dire, oui, le réchauffement climatique, oui, etc. Mais si déjà chacun s'investit dans des actions locales de dépollution, de mise en place de circuits courts pour la consommation de produits, regardez comment on consomme, c'est énorme. On parlait de la Chine tout à l'heure. Voilà, arrêtons de privilégier les produits où on est chino-dépendant. Il y a plein de petites actions comme ça que l'on peut mettre en place.
Armelle Courtois, juste pour terminer, on rappelle quand même que cette disparition des glaciers, parce que ça fait des très jolis lacs où on peut faire du kitesurf, mais en fait c'est très dangereux pour la planète, hein. C'est un témoin du réchauffement climatique. Et il y a notamment la montée des eaux qui peut être évidemment une des conséquences de la disparition de ces glaciers. Donc tout ça est très très important et c'est pour ça que tu voulais alerter là-dessus. Une question sportive là un petit peu plus, puisque le kitesurf va être aux Jeux Olympiques 2024. Oui. Tu y seras, Armel?
Alors j'aimerais beaucoup, malheureusement, avec tout le temps que je dédie au projet et qui prend quand même sur mon temps d'entraînement, je pense que ça va être court pour Paris. Pourquoi pas pour Los Angeles, une fois que j'espère la dynamique sera plus lancée sur toute cette action de sensibilisation. J'espère avoir plus de temps pour me remettre aux entraînements, mais après qui sait. Mais j'espère en tous les cas que Martin y sera, puisqu'il était à Tokyo malgré
cinquième au JO, hein. Ouais. Cinquième au JO de Tokyo.
Exactement. Et voilà, malgré tout le temps qu'on a dédié à la mise en place des expéditions, il a réussi ce challenge. Et donc j'espère qu'en tout cas ce sera notre représentant.
Et puis ça permettra de reparler de tout ce que tu fais évidemment pour la planète. Merci encore Armelle Courtois d'avoir été avec nous.
Félicitations.
Et bravo pour ce combat. D'autres infos bien sûr sur ton projet en tapant Ride to Explore, hein, sur Internet.
Riding to Explore.
Voilà, Riding to Explore pour être exact.
Exactement.
Merci beaucoup Armelle d'être passé dans les GG. À très très bientôt et bon dimanche. Retour des GG du sport dans un instant avec un nouveau zapping. On parlera notamment de l'humiliation subie par Manchester United. On en parle dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
François Pinet.
10h49, les grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi avec aujourd'hui au casting Fred Weiss, Mario Bartoli, Manu Amoros. C'est dans un instant les GG qui passent la seconde avec cette question autour des championnats européens qui ont débuté cette semaine. Il y a 9 sports aussi différents que le beach volley, l'escalade ou encore l'athlétisme et le cyclisme, et déjà 12 médailles pour la France. Est-ce que ces championnats d'Europe multisports sont une bonne idée? On en débat dans un tout petit instant, mais d'abord il est de retour, le zapping.
Le zapping des GG. Le retour.
Avec, tiens, cette info sur Nick Kyrgios qui désingue les médias. On s'en fout, on s'en fout pas. Manu Amoros. Ouais, visiblement, ça, on s'en fout.
Ouais, je m'en fous.
D'accord, d'accord. Tu t'en fous, tu as droit. Non, ouais. Tu n'as pas le droit de parler.
Ah bon.
Fred Weiss.
Ouais, je m'en fous.
Il s'en fout aussi. Mario Bartoli.
Non, je m'en fous pas.
Tu t'en fous pas. Nick Kyrgios, le tennisman australien qui s'est lâché en conférence de presse après sa défaite à Montréal. Les médias, je m'en fous complètement. Voilà ce qu'il dit. Je suis en conf de presse parce que j'ai pas le choix et que je veux pas recevoir d'amende. C'est la routine. C'est pas vraiment un plaisir. Je préférais ne pas être là. Kyrgios qui a expliqué qu'il n'appréciait pas du tout l'image que certains journalistes ont montré de lui, notamment quand il a débuté. Vous m'avez présenté comme une personne horrible. Ça a été extrêmement difficile à comprendre quand j'avais 18 ou 19 ans. Tu t'en fous pas donc, Marion? Tu l'aimes bien toi, Kyrgios?
Non, mais bon.
Non, t'aimes pas trop ce genre d'attitude?
Non, c'est pas ça. Non, il apporte quelque chose au tennis, c'est indéniable. Après, c'est pas forcément la manière dont j'aimerais, par exemple, que ma fille se comporte sur un terrain de tennis, mais ça, c'est quelque chose de très personnel. Et par contre, j'ai totalement conscience qu'il y a des jeunes qui adorent le voir jouer, qui adorent le voir faire des tweeners, qu'il a un jeu extrêmement spectaculaire, et que quand il joue bien, comme il l'a fait à Wimbledon ou à Washington, c'est très agréable à voir jouer. Ça, c'est indéniable. Après, c'est un jeune qui est assez torturé, qui a pas mal de problèmes psychologiques et qui les exprime de manière peut-être un peu plus véhémente que d'autres, qui les intériorise un peu plus, mais écoute, moi globalement je trouve qu'il fait du bien au tennis, il a trouvé quand même une certaine stabilité, il joue beaucoup mieux qu'à un moment donné, c'est ça le plus important, et ça va être un sérieux client pour l'US Open.
Donc on lui passe ses petites sorties comme ça en conférence de presse où il sait pas que des amis.
D'accord, oui, mais d'accord. Tu sais, souvent on l'a tous pensé à un moment donné, c'est juste qu'on l'a pas dit.
Tu l'as pensé toi?
Il y a des moments quand tu perds un match, tu joues pas bien et t'as été mauvais ou mauvaise, t'as pas envie d'être devant les journalistes qui vont t'appuyer là où ça fait mal, ça c'est certain. Mais après effectivement ça fait partie du travail et tu le fais quand même. Mais
toi c'est Eric Salio qui t'énerve, non? C'est Eric Salio qui...
Alors Marion, déçu? Non, écoute, tout va
bien.
Ah,
c'est la question spéciale Eric Salio. Déçu de cette défaite?
C'est ça.
La question qui énerve. On l'embrasse Eric, bien sûr. Une autre info, tiens, Manchester United humilié à nouveau. On s'en fout pas. Marion Bartoli, tiens, puisque tu as eu la parole.
Non, je m'en fous pas.
Tu t'en fous pas. Fred Weiss.
Je m'en fous pas.
Ah, il s'en fout pas. Manu Amoros.
Je m'en fous complètement.
Il nous fait un air zapping, Manu.
Non, bah ouais.
Non, mais t'as le droit. C'est le jeu, c'est le jeu. Manchester United qui a perdu son deuxième match en deux journées de Première Ligue hier. Ils ont perdu en plus dans les grandes largeurs contre Brentford. Défaite 4-0, 4 buts inscrits en 35 minutes face à une défense complètement dépassée. Cristiano Ronaldo était pourtant titulaire. Et pourtant, Eric Ten Hag, le coach de cette équipe, avait assuré la veille en conférence de presse qu'il était convaincu de pouvoir rendre à Manchester sa gloire d'antan. Mais qu'il fallait du temps, justement. Fred Weiss, pourquoi tu t'en fous pas?
Ben je m'en fous pas parce que justement tu viens de l'expliquer. On te prône du temps et au bout de la deuxième journée, on commence à parler d'humiliation. Moi déjà dans le sport, ça n'existe pas l'humiliation. Il faudrait avoir la définition d'humiliation. Ça n'a rien à voir avec
perdre 4-0 contre Brentford quand t'es Manchester United.
C'est des choses, c'est des brimades, c'est des choses comme ça. C'est la vraie vie. Dans le sport, il y a pas d'humiliation. Ah ouais. C'est une grosse défaite, oui, mais il y a pas d'humiliation. Donc déjà, ça me gêne ce terme.
D'accord. Je le retire.
Et ensuite, voilà, encore une fois, c'est une équipe qui vient de commencer le championnat. Ok, ça roule pas, mais c'est la vie et peut-être que ça ira mieux après. Donc moi, ça me choque qu'on soit
d'accord.
Si.
Je pense que les supporters de Manchester United sont beaucoup plus durs que nous, Marion. Tu t'en fous pas?
Non, je m'en fous pas parce que ça a été un immense club européen sous l'ère Ferguson et que là ils sont en train de totalement prendre l'eau et qu'on a du mal à expliquer pourquoi. Alors Manu peut-être pourrait plus nous éclairer, mais
il a pas le droit de parler.
Je peux parler.
Il peut en parler.
Je suis pas le droit d'un joker.
Mais c'est juste qu'en fait de les voir prendre l'eau à ce point-là, ça m'étonne fortement. Et je suivais hier sur LiveScore le score 1, 2, 3, je me dis il faut que je regarde parce que là c'est pas possible.
Non, mais je sais pas si t'as vu les buts, Marion, mais c'est catastrophique.
Mais
de Réa dans les buts,
c'est
un but de gag.
C'est des buts de gag totalement, mais c'est ça qui est alarmant. Alors,
Alors Manu, Joker accepté, allez, parce que c'est pas Jean-Christophe Drouet, j'accepte. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais rajouter sur Manchester?
Non, mais je crois que avant la saison, il y a eu beaucoup de choses qui sur ce club-là qui sortit, l'entraîneur qui parle beaucoup, les joueurs, le mercato, est-ce qu'il a été bon, pas bon. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même se concentrer sur le terrain et arrêter de parler et être efficace. Et je m'aperçois que les deux premiers matchs n'ont pas été bon,
J'ai bien fait de te donner un joker.
Ouais, n'ont pas été très bons de la part de Manchester, mais ça, il fallait s'y attendre de toute manière. Avec tous les problèmes que Ronaldo a pu créer, l'ambiance dans le vestiaire et doit être très, très, très mauvaise.
Ouais, après,
on laisse presque tous les pouvoirs, comme on disait tout à l'heure sur le basket, on laisse pratiquement tout le pouvoir à Ronaldo. Lui, il en profite et les autres râlent dans leur coin parce qu'ils trouvent ça inadmissible. Donc ça fait que cette mayonnaise qui devrait pendre et qui devrait les amener au niveau du classement, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a trop de problèmes en interne.
Oui, alors après les problèmes, c'est pas seulement Ronaldo. On a vu que l'année dernière, heureusement qu'il était là pour marquer des buts, mais ça fait
cette
partie
année,
des problèmes de Manchester United. Tu as raison.
Mais quand il a envie de partir et qu'il le dit qu'il trouve personne, pas un club qui veut le recevoir, tu te retrouves dans un vestiaire où les autres doivent faire la gueule. Et puis en Angleterre, je crois qu'ils prennent pas des pincettes pour pouvoir dire les choses.
Tu as raison, Manu. Allez, dans un instant, on revient à les GG qui passent la seconde avec les championnats européens ou championnats d'Europe multisport, comme vous voulez. Il y a 9 sports en même temps, au même endroit. Ça se passe à Munich. On ira à Munich d'ailleurs dans un instant. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? On en parle dans un instant dans les GG. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.